Dieu, Père éternel, Père chéri, nous qui nous croyons forts, bien souvent, nous nous cassons la figure, nous échouons comme Samson. Nous avons pourtant reçu une mission sur terre pour te servir, pour t'aimer. Une mission de lumière, une mission de responsabilité. Et parfois, nous faisons tout le contraire. Parfois, nous prenons les mauvais chemins. Et nous voyons à travers Samson, Seigneur, un homme taillé à notre mesure. Seigneur, aide-nous à comprendre ce qui s'est passé. Quelle est la grâce que tu vas accorder à cet homme et à ton peuple d'Israël, par le nom de Jésus. Amen. Alors, Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. Il a été éduqué dans la loi, dans les principes divins, dans la religion juive, et puis il va dans une région qui n'est pas juive, et il rencontre une femme qui gagne sa vie par son corps. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'environnèrent et jetèrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Donc il est dans un milieu hostile, extrêmement hostile, et il va chez une personne qui est prostituée. Pensez bien que à l'époque de Josué, dans le livre de Josué, il y a à un moment donné des espions qui partent à Jéricho pour voir la ville. Et ces deux hommes sont dans un climat extrêmement dangereux. Cette ville est dangereuse. Et ils vont se réfugier chez Rahab. Et Rahab fait partie de la généalogie de Jésus. Une prostituée. Donc quand ils vont la quitter, ils vont mettre une écharpe rouge à la fenêtre. Et quand les murs vont s'écrouler, après avoir prié, il y a eu un tremblement de terre en fait. Hein, les ruines de la ville de Jéricho. La vieille ville de Jéricho, parce qu'il y en a deux, on voit bien que c'est un tremblement de terre qui a tout fait tomber d'un seul coup. Et pratiquement, on peut encore visiter, hein, quand on va en Israël. Et pratiquement, ce qui se passe, la ville a été bien sûr vaincue par les Hébreux, mais ce qu'il y a, la famille de Rahab a été épargnée. Et Rahab avait compris la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Elle savait que ces deux hommes-là venaient en émissaire, en espion, mais que le peuple qui était derrière, avec Moïse, elle avait entendu parler des exploits de Dieu dans ce peuple. Et donc, elle avait de la crainte de Dieu. Ne nous fions pas trop aux apparences quand on rencontre quelqu'un. Moi, j'ai souvent eu ça, des rencontres, on dirait des gens, vraiment, même des assassins, ou des gens qui ont le sida, ou gens qui se droguent ou des prostituées, hein, ou des gens très volages, très vulgaires, et bien pratiquement Dieu était à l'œuvre. Hein. Et parfois, ceux qui se disent braves, 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 super braves, et bien sages, bien ceux-là, on n'arrive rien à voir de la trace de Dieu en eux. Un jour, un théologien me l'a dit, Jean, méfie-toi, que c'est ce qui a le plus en enfer des braves gens. Voilà, je vous le dis toujours, il ne faut pas être sage à ses propres yeux. Et vous avez vu que Jésus avait rencontré une femme qu'on voulait lapider, la femme adultère, et puis après il a rencontré une femme samaritaine. Regardez l'attitude de Jésus. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Donc ils vont faire un guet-apens pour l'éliminer, parce qu'ils l'estiment dangereux. Verset 3, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter, nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. C'est une fortune, hein, ça. Cette somme-là, c'est un cycle de travail. Hein. Alors, bien sûr, Delila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Et bien sûr, il va se passer des choses dans le lit, hein, parce que Samson n'est pas très très sage, et puis que Dalila, ben, elle sait comment attirer les hommes, et puis pratiquement ce qui se passe, elle n'arrive pas à lui faire dire où il a sa force. Chaque fois, il la roule, il lui dit des mensonges. Hein, regardez, verset 18. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Après plusieurs échecs, il a dit, ben, c'est dans mes cheveux qu'est la force. Et si on me découvre, je n'ai plus de force. Bon, là, elle a compris que Samson s'était livré à elle. Et que elle pouvait confier le sort de Samson aux ennemis. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la vie chrétienne, ne jouez pas trop avec les risques de l'impureté, les risques de l'argent, les risques de l'orgueil. Tout ça est lié, OAS, orgueil, argent, sexe. Tout ça est lié dans le cœur de l'homme, depuis la chute d'Adam et Ève. Et souvent, c'est par l'impureté que commence la dégringolade. Généralement. Ou alors, on a beaucoup d'argent, on était bien sage, puis à un moment donné, ça va arriver. Hein, c'est... Tous les trois sont dangereux. Orgueil, argent, sexe. OAS. Mais ce qu'il y a, c'est que, à un moment donné, si Dieu nous a bénis, Dieu nous a couverts de sa grâce, nous a conduits, il faut rester fidèle. Il faut rester fidèle. Ce qu'il arrive après quelques années de conversion, c'est que on a l'habitude, comme certains pilotes dans les avions, de mettre le pilotage automatique, et puis on veut aller boire sa tasse de café avec des hôtesses de l'air. Et l'avion continue tout seul. Mais ce qu'il y a, dans les Pyrénées, il y a de ça quelques années, un Airbus a percuté les montagnes et s'est écrasé, tout le monde était tué. Et quand on a ouvert la boîte noire, on s'est rendu compte que l'ordinateur, il y avait un micro, l'ordinateur disait au pilote de reprendre les commandes et de monter plus haut. L'avion était trop bas. Le pilotage automatique dans les avions peut être dangereux, mais dans la vie chrétienne aussi. C'est l'endormissement, c'est l'assoupissement, c'est le manque de vigilance, c'est le manque de présence à Dieu tous les jours, de prière, de consécration à Dieu. Et on est chrétien, oui, on est chrétien. On a foi dans sa foi. On a foi dans son Église. On a foi dans ses engagements. On a foi dans sa foi. On n'a pas foi en Christ. Regardez l'Église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, la première Église. Tu repens-toi d'où tu es tombé, tu as abandonné ton premier amour. L'essentiel d'une vie chrétienne, c'est l'amour de Christ, c'est la communion. Donc ce n'est pas l'union prostatique, c'est la communion christique, c'est la communion avec le Seigneur Jésus. Et pratiquement, si vous voulez, il y a un grand échec, toujours derrière un manque de vie réelle avec Christ. Il y a toujours un grand échec, des petits échecs, puis un grand échec qui arrive. Faire attention. Et vous voyez ici, l'homme est sensible au corps, à l'apparence. Aujourd'hui, toute notre civilisation, par la télévision, par les modes, par les revues, aller à l'hôpital, aller chez un docteur, chez un dentiste, toutes les revues, je m'excuse, c'est toujours de la gonflette, hein, des mecs, et puis des nanas. Et pourquoi? Parce que c'est comme Dalila. C'est comme chez les Philistins. Nous sommes chez les Philistins. Et une fois qu'on a commencé à jouer à ce jeu-là, de vouloir certaines désenvoltures, se laisser aller, certaines permissions, on finira comme Samson. C'est pas une question de cheveux, moi j'en ai plus par exemple. Hein? Mais ce qu'il y a, c'est une question que c'est un grand symbole. Il a perdu toutes ses forces. On finit, de fil en aiguille, on finit par ne plus avoir de force spirituelle. On n'est plus en état de résister au péché, on n'est plus en état de résister aux tentations que les autres offrent, on n'est plus en état de résister à la dépression et au désabusement, à l'amertume. Et regardez au verset 19, Elle l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. À un moment donné, quand on se confie dans des passions, on se confie dans des impuretés, même dans le cœur, hein, qui ne vont pas jusqu'à l'acte. Combien de fois j'ai dû combattre et avertir certains de mes enfants, il n'y avait pas d'acte, mais je voyais leur cœur. Il était déjà très loin. Alors, quand je le faisais remarquer, hein, il y a ici 2 jeunes, hein, quand je le faisais remarquer, c'était l'orage. On était fâchés contre moi. De quoi tu te mêles, etc. Tu me soupçonnes de quoi? Moi, je ne me désarme pas. Si je suis pasteur pour les autres, je le suis aussi pour mes enfants. Je ne me désarme pas. Je dis, je t'ai averti, c'est tout. Même que tu me lancerais toute la vaisselle à la figure, je t'avertis. Tu n'as qu'à faire attention à ce que je t'ai dit. Alors, il y a chez nous, chez les êtres humains, une malhonnêteté essentielle. Une malhonnêteté envers Dieu. Quand on a cru en Christ, qu'on est sauvé, qu'on a connu Christ, après un certain nombre d'années, le « moi-je » revient. Les tendances reviennent. Et on les érige en système. Et Dieu, il est 5e roue, là, celle qui est dans le coffre, au cas où il y a une crevaison. On dit ça en latin, Deus machina, ex machina, ça veut dire le Dieu de secours, le Dieu qui vient dépanner. Ce n'est pas comme ça la vie chrétienne. Alors, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Verset 20. Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Suite à la chute, un autre péché vient. Les amis, analysez tout ça parce que c'est nos problèmes à nous. C'est la présomption. Je m'en sortirai bien quand même. Ils m'embêtent avec ces trucs qu'ils me disent, ou les chrétiens m'embêtent dans l'église avec leurs trucs. Et puis chaque fois que je les rencontre, c'est pour qu'ils me répètent ci et ça. Ou ils vont prier pour moi pour que je change. La présomption, c'est comme le hérisson. Hein. Il y a des picots partout. Alors, la présomption est un fruit de l'égarement spirituel. Mais c'est une arme redoutable. Quand ils rentrent dans la vie des chrétiens, et que ces chrétiens fréquentent encore l'église, ils sont dans l'église, ils donnent la contagion aux autres. J'ai déjà dit à ma femme qu'un jour, si Jésus tarde, il n'y aura plus de pasteur. Je l'ai déjà dit. Parce que c'est extrêmement difficile. Les hommes sont rebelles à la vérité. Il n'y a pas que chez les païens. Je pense que si Jésus tarde, il n'y en aura plus. Ça va être le désert. Parce que, je vous garantis, que la vie n'est pas facile. De se faire le shérif dans le village... et de regarder, etc. Hein? Sans même vouloir être méchant, c'est un rôle qui est... C'est celui qui empêche de tourner en rond. C'est le trouble fait, hein? Celui qui sert le Seigneur. Eh bien, ici, vous voyez, il a dit, je m'en sortirai, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, verset 20. Je sais par expérience, pas seulement par lecture biblique, mais aussi par expérience, que quand on va trop loin avec Dieu, Dieu s'éloigne pour un certain temps pour nous laisser aller jusqu'au bout, au fond, pour qu'on sache ce que c'est d'être au fond. Pour qu'on sache ce que c'est. Et qu'on se reconnaisse misérable, misérable, misérable. Et... alors là, il faut compter sur la miséricorde divine. Là, il faut être crucifié en Christ. Il y a parfois des gens qui ont été baptisés, peut-être trop vite, ou en tout cas, le pasteur, on n'a pas vu clair, on le voit même dans les actes des apôtres, il y en a, Simon le magicien, Ananias et Zéphira, c'est pas toujours facile de discerner. Baptisé, et puis tout d'un coup, la nature, la vieille nature de la personne là, qui est chrétienne, peut-être depuis des années, n'a pas été crucifiée. Paul dit dans Galates, j'ai été crucifié en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la radicalité. Pourquoi? Parce qu'il dit « je suis comme l'avorton », tellement il considère que sa vie était mauvaise avant. Je regarde tout ce qui était avant comme de la boue. Vous voyez, celui qui me donne sa vie, il la sauvera, celui qui veut la conserver, il la perdra. Ça, c'est le verset qui m'a touché à l'âge de 16 ans, qui m'a percuté. Mais le mettre en pratique, jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est pas simple, hein. Je me suis rendu compte qu'il m'avait touché, mais à un moment donné, je ne me laissais plus toucher par le verset. Nous sommes dans une nature malhonnête, une nature trafiquée. Quand nous sortons du ventre de la maman, notre nature est trafiquée. Elle est trafiquée comment? Comme un ordinateur qui sort de l'usine, il y a un ouvrier qui, au lieu de mettre tout en ordre, il met un virus. Et tous les ordinateurs sortent de l'usine avec un virus. Ou les voitures, hein, qui ont des codes, etc., une électronique. Il met une petite poisse là pour que les voitures ne puissent pas tourner. Eh bien, dans les humains, avec Satan, avec ce que Ève et Adam ont accepté de Satan, il y a quelque chose en nous qui doit être sous le contrôle de notre vigilance, quelque chose qui doit être sous le contrôle d'une grande inspection de notre part, d'un examen. Est-ce que mon péché est en train de encore remonter à surface et de m'égarer et de me laisser croire que je suis en ordre avec Dieu? Est-ce que mon péché est en train de me séduire? Rappelez-vous dans Hébreux, chapitre 4, 5 et 6, vous n'entrerez pas dans le repos. Attention, comme aux eaux de Mériba. Pourquoi? Vous n'avez pas encore résisté contre les péchés jusqu'au sang. C'est Apollos qui a écrit l'épître, hein, à la fin du premier siècle. Résister au péché jusqu'au sang. Le sang de moi, je ne vais peut-être pas mourir sur la croix. Peut-être que je serai tué, mais je n'en sais rien. Mais le sang de Christ, jusqu'au sang, c'est-à-dire, le sang de Christ est mon trésor pour que le péché ne me domine pas. La personne de Christ à la croix et son sacrifice sont la seule clé pour moi que mon péché soit enseveli. Enseveli. Mon vrai baptême, c'est quand ça a été sur le Golgotha Jésus. Mon vrai baptême, il a porté mon péché, il a été enseveli dans la mort et dans le tombeau. Mon péché était enseveli là. Dieu savait que mon péché était crucifié. Christ le portait sur lui au moment de sa crucifixion. Et quand il ressuscitait, le plan de la vie nouvelle et le don de la vie nouvelle que Dieu a prévu pour moi me sont donnés en Christ. La force de ma vie, c'est la foi dans le sacrifice de Christ et dans sa résurrection. Alors, voilà, la présomption, c'est quelque chose qui fait oublier la grâce du Golgotha, la grâce de Christ crucifié et ressuscité. Et c'est tout simplement un chrétien qui redevient un être religieux, le ronron de la religion et de la présomption personnelle, de l'égarement, même si ça porte le nom de Jésus-Christ, on peut être dans l'égarement. Donc faisons attention, notre Samson, qui a été béni par Dieu, s'est bien planté. Eh bien, regardez en Europe combien de chrétiens se plantent. Alors, naturellement, Dieu dans sa grâce, on va voir le verset 21 d'abord. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza, le lièrent avec des chaînes d'airain, donc fer et cuivre, hein, c'est du bronze, ils tournaient la meule dans la prison. Et pratiquement, il a les yeux crevés. Quand on a été trop loin dans le péché, les amis, quand on est trop loin dans le péché, on se dit chrétien et on ne met pas le prix qui est l'obéissance. On ne met pas le prix qui est la communion à Christ. Donc on veut une grâce à bon marché. J'ai été sauvé, j'ai été baptisé, prends une grâce à bon marché. Maintenant je fais ce un peu qui me plaît, vive la liberté, on est quand même en démocratie. Hein? Et dans l'Église, la démocratie. Donc Christ est notre égal. Il n'est pas Seigneur. Hein? Bon, eh bien, regardez, on a cravé les yeux à ce brave homme Samson. Combien de chrétiens ont les yeux crevés et ne voient plus où ils doivent mener leur vie chrétienne? Combien de chrétiens ont les yeux crevés et ne lisent plus la Bible? Combien ont les yeux crevés et ne regardent plus à Christ? Ils ont des yeux et ils ne voient plus rien. Quand dans Ésaïe, au chapitre 6, Dieu a dit ils ont des yeux, ils ne verront plus, ils ont des oreilles, ils n'entendront plus, c'est une malédiction que Dieu jetait sur Israël, hein, pratiquement parce qu'ils avaient bafoué tous les prophètes, tous les appels à la sainteté, des multiples appels à la sainteté, et des grands miracles que Dieu avait fait dans la vie d'Israël, eh bien Dieu a bouché les oreilles. À un moment donné, les amis, dans la vie chrétienne, il arrive que des personnes s'obstinent à rester dans l'état de péché et se disent chrétiennes. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes comme ça, et il y a un aveuglement total. Leur âme ne voit plus rien. Leur esprit ne comprend plus rien. Et ils sont liés. Il ne faut jamais préparer une chute pareille. Il ne faut jamais le faire. Il ne faut pas le faire, les amis. Il faut s'attacher au Seigneur Jésus le plus proche de lui, le plus proche. L'apôtre Jean qui mettait sa tête sur l'épaule de Jésus. J'ai repensé à ça dans la semaine, plusieurs fois quand j'étais tout seul et que je priais. Moi, de toute façon, si je n'avais été à cette époque-là, je me mettais à l'autre épaule. Ça, c'est clair. Parce que c'est une épaule comme il n'y en a pas d'autre. C'est le Fils de Dieu, c'était Dieu qui était là. C'est une épaule comme pas d'autre. Moi, j'y allais. Hein. Les 11 autres n'y allaient pas, mais moi, j'y allais. Ah oui, je ne voulais pas rater ça. Hein. Vous vous rendez compte, la personne de Christ, la valeur. La valeur infinie que Christ a. Et je crache dans la soupe, je m'écarte, je laisse Christ là, et puis, quoi. Regardez l'église de Laodicée dans l'Apocalypse. Il est derrière la porte. Voici, je frappe. Si tu m'ouvres, ou que tu entends ma voix, j'entrerai, je mangerai avec toi, et tu mangeras avec moi. Donc, l'église de Laodicée, Christ est dehors. Ce n'est pas si neuf que ça, c'est vieux. Alors, ici, Samson, c'est l'image de quelqu'un qui avait une mission et qui fait tout à l'envers. Nous, chrétiens, nous ne devons pas faire notre chemin à l'envers. Il ne faut pas se laisser crever les yeux par Satan. Il ne faut pas devenir plus bête que nos pieds, même moins intelligent qu'un athée. Parfois, quand un chrétien se livre au péché, il devient encore plus bête qu'un athée. Il a des chaînes d'airain et il a une meule au cou. Verset 22. Le moment de la grâce, après le temps de l'humiliation. Le temps de l'humiliation est dur parfois quand on a péché longtemps et qu'on a renoncé à Christ. Après le temps de l'humiliation, il y a un jour où Dieu, dans sa miséricorde, parce qu'il avait appelé cette personne-là, il voulait s'en servir dans sa grâce pour faire quelque chose sur cette terre. Cependant, les cheveux de sa tête recommençait à croître depuis qu'il avait été rasé. Alors, ça commence à repousser. C'est le signe, tout simplement, les amis, que même après une chute très grande, hein, quelqu'un qui a vraiment cru en Christ, il faut l'encourager, il faut l'exhorter. Ça, c'est le rôle d'un serviteur de Dieu. Quel que soit le péché qu'un chrétien fait, il faut prier, et puis à un moment donné, même si on n'y va pas tout de suite. Parfois, il faut laisser la personne avec ses yeux crevés, tourner sa meule tout un temps. Il faut la laisser. Il faut qu'elle sache ce que c'est, les conséquences. Elle doit porter la peine de son péché. Clairement, dans Osée, dans Michée, on le voit. Mais à un moment donné, il faut prier, il faut être vigilant. Il faut aller vers la personne et lui tendre la perche, lui dire « Mais Dieu t'avait appelé, Dieu t'aime toujours. Est-ce que tu veux revenir ?» Est-ce que tu veux remonter? Tu veux te remettre à lire la Bible? Est-ce que tu veux revenir à la réunion? Est-ce que tu veux tu t'es remis en question? Est-ce que tu vas changer de vie? Est-ce que tu as compris à quel point le péché c'est quelque chose qui est inhérent à notre nature et que c'est notre ennemi? C'est pas les autres l'ennemi, c'est pas Dieu. C'est pas les autres chrétiens. C'est pas la femme, c'est pas l'homme. Le mari qui est l'ennemi, c'est ton péché. Alors, si tu as compris ça, tu as une grande grâce. Tu as compris à quel point tu as besoin de la grâce de Dieu. Paul l'a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, les cheveux repoussent, c'est-à-dire la force revient, la foi revient. Et Je dirais, j'ai déjà vu ça chez des chrétiens, l'amour de Dieu revient, l'amour des autres revient. Et des gens, parfois, qui ont été très loin, engagés, après avoir été chrétiens, parfois, se remettent même à annoncer l'évangile à d'autres. Se remettent même à chercher les autres. Chercher les autres pour Christ. Donc, l'appel de Dieu est irrévocable. Quand quelqu'un a été appelé, et qu'il a donné sa vie à Jésus, même s'il a sombré fortement, Dieu n'a pas effacé dans son livre de vie le nom de la personne. Ce n'est pas au pasteur ou à un diacre, ou je ne sais pas, une église, d'aller effacer dans le cahier de Dieu le nom de cette personne. On doit prier, on doit intercéder pour qu'il sorte des filets du diable dans lesquels il est tombé, dans les pièges. Pièges de la chair, ce n'est pas toujours du diable aussi, c'est aussi la chair. Hein, pour Samson, vous voyez qu'on ne parle pas de Satan. Hein. Et aujourd'hui, dans notre société, le sexe, hein, et le paraître, hein, tout ce qu'il y a. Et regardez les nouvelles lois qu'on fait en France et en Wallonie pour donner de l'éducation sexuelle aux enfants dès 3 ans. Pour quoi faire? Pour les faire tomber au même état que Samson. Ils ont les yeux crevés. Alors, au verset 30. Au verset 30. Samson a joué un petit peu à la ruse. Il a dit, puisque je suis en forme, etc., je voudrais bien ne plus tourner la meule. Aujourd'hui, il y a une grande fête chez les Philistins, devant la statue de Baal. Je vais, si vous voulez, je vais danser, je vais faire le pitre. Je vais faire le pitre. Hein? Et regardez, au verset 27, la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Bon, une tribune de football, quoi. Hein? Ou Parc des Princes, quoi. Ben on aime bien ça, la foule aime bien ça, hein. Avec les tambours, les trompettes, et puis la télévision, les caméras et tout, hein. Allez-y. Et alors Samson invoqua l'Éternel. Tiens, il est sorti du bourbier, lui. Il n'a plus les yeux crevés, là, au sens spirituel. Il invoqua l'Éternel, dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Alors, il embrasse les deux colonnes, il tire sur les colonnes, et tout l'édifice s'écroule, avec tout le monde. Hein. Et, au verset 30, Samson dit, « Que je meure avec les Philistins !» Il se pencha fortement, la maison tomba sur les princes, et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort, furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Qu'est-ce qu'on voit? Cet homme a arrêté un ennemi qui était redoutable. Pourquoi il était redoutable? Historiquement, quand on fait des fouilles archéologiques en Israël, on voit que les Hébreux vivaient sur les collines, étaient des bergers, des pastoureaux, des bergers. Donc ils avaient quoi? Une fronde, ils avaient un bâton et des moutons et des petites maisons. Dans les fonds des vallées, il y avait des maisons en dur, il y avait des ruisseaux avec des moulins, des forges, et les Philistins, les Hittites, Hittites, c'est une race qui vient de Turquie. Les Hittites avaient des forges, du métal, des outils, des charrues, des épées, des boucliers, des flèches. Donc le rapport de force était nul. Les Hittites étaient les plus costauds et les plus forts. Ils faisaient des sacrifices humains. Moi j'ai visité un temple en Israël, à Beth She'an. Et Beth She'an, on voit là, dans les murs, hein, où ils avaient mis les têtes de Saül et de Jonathan, des enfants. C'était des féroces, c'était pas des rigolos. Dieu ne voulait pas ça sur cette terre. Cette terre, il est promis à Abraham. Il ne voulait pas des horreurs pareilles, des abominations. Donc, ou les Philistins s'en vont, ou ils meurent. Alors, pratiquement, nous voyons que Samson a accompli une mission qui était importante. C'est mettre la terreur chez l'ennemi pour qu'il s'en aille, qu'il laisse la place au peuple de Dieu. Il faut faire attention, les amis, pourquoi est-ce que Samson s'est mis dans une telle situation? Pourquoi est-ce que nous, chrétiens, je vois ça, hein, il y a des coups de téléphone, parfois j'ai des visites de personnes qui viennent d'autre part. Ils ne sont pas là, ils ne seront jamais là. Et pourquoi ils se sont mis dans des situations pareilles? C'est incroyable. Alors, il faut les aider à se retaper, comme on dit. Prenons le deuxième livre de Samuel. Avec l'aide de Dieu, bien sûr, hein, parce que moi, je ne suis pas un gourou. Hein. Deuxième livre de Samuel. Donc après les juges, hein, vous avez bien sûr vous avez Samuel qui va choisir David, Saül et David, ensuite comme roi. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Au départ, dans le problème de Samson, ce n'est pas l'appel de Dieu, ce n'est pas la vocation de Dieu, c'est la convoitise de la chair. On n'a même pas parlé du diable dans la vie de Samson, c'est la convoitise de la chair. Ici, deuxième livre de Samuel, chapitre 11, versets 2 à 5. Un soir, j'ai visité l'endroit, hein. J'ai visité l'endroit où on voit les maisons de tous les officiers, des serviteurs de David, et puis là où était David, en surplomb. Il voyait toutes les maisons, tous les toits plats, et sur un des toits, eh bien, il y avait une femme qui se baignait, et qui était mignonne, et qui était mariée, mais ça n'avait pas d'importance pour David, sans doute, et il la convoite. Chapitre 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Vous voyez, les amis, que c'est extrêmement important, en tout cas chez les chrétiens, qu'on soit habillé convenablement. Il faut avoir de la pudeur et il ne faut pas exposer son corps inutilement. Quand il fait chaud, messieurs, torse nu, bim, 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 bim. Non, Dieu ne demande pas ça. Dieu ne demande pas que les hommes, quand il fait chaud, se trimballent en liquette. Pourquoi les femmes ne le feraient pas alors? Hein? Pour montrer ses pectoraux, etc. Tout. Quand il y a du soleil, on doit être habillé convenablement aussi. En tout cas, si on a compris l'importance de l'appel de Dieu dans la parole à la pudeur. Le contraire de pudeur, c'est impudicité. C'est exposer le bifteck pour que les autres en aient envie. Et puis le diable vient là-dedans. Il vient dans l'âme des autres et il ne les laisse plus tranquilles. Ça turbine tout le temps, jour et nuit. On ne peut pas faire tomber les autres parce qu'on est un peu fou dès qu'il y a du soleil et qu'on se met n'importe comment, n'importe quelle tenue. C'est la même chose pour les femmes. C'est la même chose pour les femmes. Or, regardez dans notre société, regardez dans les films, regardez dans tout. Ben regardez, c'est tout le contraire. Et puis on s'étonne. Dès qu'il y a l'impureté, après, il y a l'endurcissement. Quand il y a l'endurcissement, après il y a le mensonge. Après le mensonge, il y a la haine. Après la haine, il y a le meurtre, ou le viol, ou l'adultère, ou le divorce. Après tout ça, il y a quoi? L'accusation, la division. Tous les attributs de Satan tombent dans la vie des gens. Le premier, pour y rentrer, c'est l'impureté. Alors, regardons, chapitre 11, verset 2, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Il rentra tout de suite et il ferma sa porte pour ne plus la regarder. Oh non, au contraire, il s'est rincé l'œil. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, elle fit dire à David, je suis enceinte. Bon, cataclysme. Les misères commencent. Bon, maintenant on a l'avortement. Hein. Et croyez bien, combien de femmes j'ai rencontrées qui avaient avorté? Elles ne sont plus les mêmes après. Elles ne sont plus les mêmes après. Jamais plus elles ne seront comme avant. Et vous n'avez jamais vu une photo d'un avortement? Un film? Mais moi si. Monsieur le docteur rentre le tuyau, l'aspirateur. Et pour que il y en a un autre qui a l'écran, qui lui dit L1, T3, c'est les endroits de l'utérus. pour ne pas dire tu vas attraper le bras du fœtus, tu vas attraper sa tête, hein, pour banaliser les choses, on a des lettres. Alors l'autre qui est sur l'écran lui dit T3, pam, il lui attrape une jambe, il lui arrache l'aspiration. Vous voyez le fœtus qui se sauve à l'autre bout de l'utérus, qui est terrifié. Puis vous voyez tout d'un coup une main. L'enfant se sauve à l'autre bout. Et puis après, c'est le ventre où c'est Dachau, Buchenwald pour moi. C'est légalisé. Il y en a 125 000 avortements légalisés tous les jours sur la Terre. Comment Dieu ne ruinerait pas nos États et les faire tomber à terre avec leur caisse de sécurité sociale et qu'un jour il n'y ait plus de sous? C'est ce qui va arriver. Dieu va volontairement vider les caisses et il n'y aura plus rien avec cette iniquité. Et quand vous aurez besoin d'être soigné pour une bronchite ou une appendicite, il n'y aura pas de sous. Mais ça fera réfléchir tout le monde. Il sera peut-être trop tard, parce que Jésus va revenir. Et ceux-là vont peut-être rester dans les tribulations. Et il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, oh mais il y a plus facile, il y a la pilule de l'après, c'est-à-dire, ben cric-crac, boum, mais j'avais pas pris la pilule. Oh, j'avais pas pris le préservatif, la pilule qui avorte. C'est un avortement. C'est un meurtre. Ou le stérilet. Ah, je mets le stérilet. Mais le stérilet, les amis, dans le ventre de la femme, c'est un avortement. Chaque fois qu'il y a un œuf qui est fécondé par une petite graine du monsieur, si c'est le papa et le mari, c'est peut-être bien, mais pas souvent, dans notre société, il y a fécondation et ça déloge l'œuf. Il n'arrive pas à se fixer sur la paroi de l'utérus parce que toujours le stérilet bouge et l'arrache. C'est un avortement, le stérilet. Nous ne sommes pas là pour participer à l'iniquité de ce monde, quand on est chrétien. Si on l'a fait avant la conversion, ça c'est autre chose. Par le sang de Jésus, si réellement on a mis tout ça devant le Seigneur, on est pardonné. Mais il n'y a pas de raison de recommencer. Pourtant, moi, j'ai vu, et c'est ça qui est une horreur, un jour, j'avais une discussion. Je vais à une grande réunion d'église. À la Pentecôte, il y a toujours les chrétiens évangéliques qui aiment bien faire des fêtes. Et je suis là, je rencontre une jeune fille avec son papa. Elle joue à l'église du piano. Et puis, là, tu fais quoi? Gentiment, tout ça. Ben, je suis infirmière. Ah oui? Je dis, tu fais des avortements? Elle me regarde. Vous n'avez pas le droit de me juger. C'est un œuf. C'est un acte médicalisé, autorisé par la loi. Et puis, elle quitte son père, elle quitte tout le monde, elle prend l'auto, elle claque la porte. Mais je ne vais pas lui dire que c'est une bonne chrétienne quand même. Mais je ne suis pas un goujat. Moi, je sais que Jésus est à côté de moi. Je ne vais pas dire le contraire de ce que Jésus pense. Qu'est-ce qu'il se passe? Moi, j'ai connu dans une église plusieurs jeunes femmes qui ont fait des études d'infirmière comme ça. Elles se sont toutes corrompues comme ça. Alors, elles ont continué à aller à l'église. Elles ont marié quelqu'un de l'église. Et puis après, ça a été le divorce. Rebelote, on reprend quelqu'un, redivorce. Des gosses par-ci, chez les papis, chez les mamies. Les amis, quand on triche avec ce que Dieu dit, on ne va jamais dans le chemin de la paix. C'est mis clairement dans Romains, angoisse et tribulation sur l'âme du pécheur. Il faut savoir que Jésus-Christ est le prince de la vie, il est là pour la vie. Il est là pour la vérité. Vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui font des études d'infirmière ou d'aide-soignante. Vous ne pouvez pas fermer votre bouche et dire « C'est bien, mon petit chéri. Je t'aime tellement que je ne vais rien dire, je vais te laisser aller en enfer. Je t'aime tellement, mon cher petit-fils ou ma petite nièce, je vais te laisser aller en enfer, je ne vais pas te déranger. » Non ! Si vous les aimez, vous devez parler. Si vous aimez Dieu, vous devez parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour David? Eh bien, lui, il va essayer d'attirer le mari dans le lit de madame, et puis, suite à certains rapports, ils pourront croire que c'est un enfant qui vient de monsieur. C'est ça le calcul. Mais ce brave monsieur est un vaillant soldat qui ne veut pas abandonner son poste et qui ne veut pas aller dans le lit conjugal si tous les autres de son armée ne sont pas rentrés à la maison. Et David est très, très, très embêté parce que la droiture de cet homme, l'intégrité de cet homme devient une source de scandale. On va savoir que la femme est enceinte et que le mari n'était pas dans le lit. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire assassiner Uri, le mari. Et il va marier la femme. Les amis, quelqu'un qui a été choisi par Dieu, qui est prophète, qui a fait écrit les psaumes, qui est appelé à ce que le trône sur lequel il est assis soit le trône de Salomon, puis d'une vingtaine de rois, et puis ensuite le trône de Jésus-Christ. Le successeur de David, c'est Jésus-Christ, le vrai roi. Voilà que cet homme-là, qui a d'immenses grâces, fait des choses horribles. Est-ce que vous croyez que dans les églises de Jésus-Christ aujourd'hui, ça n'existe pas? Moi, j'en suis sûr que ça existe. J'en suis sûr. On ne peut pas passer la pommade. Il faut que nous soyons fidèles à Christ, à sa parole, fidèles à sa volonté. J'avais fait des travaux à Argenteuil chez un ami pasteur plus âgé qui nous aidait, qui aidait notre famille. Et ce cher frère avait une église de 130 à 100, 150 personnes. Et on allait à 7-8 de notre église travailler là, les camionnettes, tous les outils. On y a été plusieurs fois. Et une fois au soir, pendant que je prenais mes mesures, mes prévisions pour les achats de matériaux, parce que les autres dormaient déjà, mais moi il fallait que je prépare le chantier pour le lendemain, quelqu'un venait à 6 heures pour voir ce qu'il fallait, il allait le chercher, et à 8 heures on pouvait commencer. Donc j'étais en train de mesurer, mon brave pasteur, mon brave Bob qui arrive, 15 ans plus que moi, pratiquement, et il avait besoin de se confier. Il m'a dit, j'ai une église formidable, et il a dit, Jean, il y en a qui disent qu'ils vont faire ça, ils ne le font jamais. C'est toujours les mêmes qui le font. Et puis ils sont là pour critiquer, ceux-là. Ils n'ont pas fait, ils sont là pour critiquer. Et je dis, tu crois qu'ils sont sauvés? Je lui dis ça comme ça, moi. Tu crois qu'ils sont sauvés? S'ils s'amusent à ce jeu-là. Il m'a dit, écoute, Jean, je les ai baptisés, ils ont confessé Jésus-Christ. Je peux dire à tout le monde, ils ont confessé Jésus-Christ. Je ne dirai jamais qu'ils sont sauvés. Alors, bon, qu'est-ce qui est sauvé? Je peux, et je sais, je peux dire, et je sais, que ceux qui sont sauvés font la volonté de Dieu. Font la volonté de Dieu. Donc sur 150, un certain nombre faisait la volonté de Dieu, et les autres se mettaient le doigt dans l'œil jusque-là. C'est ça l'histoire des lampes dans lesquelles les vierges folles, il n'y a pas d'huile dans la lampe, il n'y a pas de lumière dans la vie de ces personnes. Ils ont la Bible, mais il n'y a pas d'huile. On n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de lumière. Et on fait n'importe quoi dans l'église, en tout cas derrière les autres. Et puis il y a les autres, les vierges sages, qui ont de l'huile dans la lampe, qui sont conduites par le Saint-Esprit. La Bible, c'est la lampe. Et la lumière se dégage dans leur vie. Ils savent où ils vont à la rencontre de Jésus. Et Jésus vient à leur rencontre. Parce que Jésus est lumière, il reconnaît la lumière qu'il a mis dans le cœur de certains. Donc dans l'église, vierge folle ou vierge sage? Je ne sais pas. J'espère que David est sauvé. Il a demandé pardon 1000 fois, je sais bien. Mais Dieu est miséricordieux. Mais c'est pour vous dire que quelqu'un qui a été appelé, qui a reçu de grandes grâces, peut faire de grands péchés. Donc, méfions-nous, non pas de Dieu ni des autres, mais de nous-mêmes. De nous-mêmes. Dans le premier livre des rois, mais je reviens à Samson, puis je vais arrêter. Salomon, dans le premier livre des rois, chapitre 10, vous avez la visite de la reine de Séba. Avant, ce que vous avez dans les textes qui manquent avant, qui sont avant le 10, c'est la richesse, la prospérité. La sagesse. Mais oui, une grande intelligence pour être prospère. Une grande intelligence pour attirer les bénédictions. Mais tout d'un coup, il vient à Raquel Welch, ou Brigitte Bardot, il vient à quelqu'un, elle lui a tapé dans l'œil, et va passer beaucoup de temps avec, et son cœur ne sera plus le même après. Son cœur ne sera plus le même après. Et ni elles. Elles non plus. Elles non plus. Mais regardons verset 13. Premier livre des rois, chapitre 10, verset 13. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, tout ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Une fois que vous êtes séduit, une fois que vous êtes gagné par une passion, je me rappelle quand je faisais ma formation en théologie au séminaire, je n'avais pas d'argent. Mes parents n'étaient pas d'accord. Moi, j'aimais Christ. Hein. Je ne savais pas que l'Église évangélique, ça existait. Donc, j'avais fait 2 ans de philosophie. J'étais en première année de théologie. Et le grand chef, le chanoine Jacques, m'appelle dans son bureau. Il me dit, Jean, j'ai 2 choses à te dire. Pendant que tu étais à la cathédrale, dans la foule, il y a une dame qui a dit, je veux savoir qui ou comment s'appelle ce garçon, et il ne doit pas savoir comment je m'appelle. Ce jeune homme. Vous lui demanderez s'il aime le Seigneur jusqu'à la fin de sa vie et s'il veut le servir. S'il vous répond oui, le chanoine Jacques, je suis prêt à payer toutes ses études. Je suis veuve, je viens de vendre mon gros garage, le garage de mon mari, j'ai de l'argent. Alors, c'était Victor Jacques, il me pose la question, je dis, écoutez, j'ai un diplôme, je peux travailler actuellement. Personne ne m'a poussé. Je suis d'une famille qui ne croit pas. J'étais dans l'enseignement laïque. J'aime le Seigneur Jésus, c'est pour ça que je suis ici. Et je ne reculerai pas. Vous pouvez lui dire. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez, Monsieur Shannon, je vais vous dire. La seule solution pour tenir, je vais vous le dire, la seule solution, et je l'ai compris depuis longtemps, c'est de passer au moins 3 heures chaque jour dans l'intimité du Seigneur Jésus, de le prier, de lire la Bible. 3 heures sur 24, c'est pas beaucoup. Mais si on le fait, on peut tenir. Vous direz ça à la dame. Et j'ai eu toutes mes études de payer. Et quand ça a été pour l'Institut biblique à Grange, mes études ont été aussi payées. Le Seigneur a mis sa main, chaque fois. Ce que je veux vous dire, c'est que ne vous écartez pas du Seigneur, il sait, si vous êtes sérieux avec lui, il sera sérieux avec vous. Si vous le prenez pour un rigolo, il fera le rigolo avec vous. Ce qu'on a semé, on le récolte. Si on prend Dieu pour un petit nain, eh bien, on le payera. C'est ça que je veux vous dire. Alors, eh bien, notre Salomon, qui avait reçu des grâces formidables, qui avait l'assurance qu'il y aurait un trône éternel, à perpétuité, dans la lignée de David, celui de Christ, bien entendu, va s'attacher à beaucoup d'argent, à de la cavalerie, à des chars, que c'est interdit. Allez voir dans Deutéronome chapitre 17, verset 14, vous verrez, c'est clairement mis. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer ? Une jolie nana arrive, il est en compote, il devient comme une guimauve. Ça devient la preuve qu'un homme n'est pas si costaud que ça, les amis. Et je me rappelle que elle rit, mais c'est vrai, elle sourit. Beaucoup d'hommes se font avoir là où ils croient qu'ils sont très malins. La séduction est bien pratiquement, et les femmes aussi. Alors pratiquement ce qui se passe, vous savez ce que ce monsieur, Shannon Jacques m'a dit, Jean, je te demande une chose. Une seule. Ne laisse jamais passer, rentrer la passion en toi. Et tu gagneras, tu accompliras ce que tu as décidé. Ne laisse jamais rentrer la passion en toi. Une fois qu'elle est là, ça sera l'échec. J'ai toujours retenu. Et sur les chantiers, quand j'étais prêtre ouvrier, il y a un maçon qui trompait sa femme. Un homme, un bon ouvrier, un chef d'équipe. Et il avait un jour, voulu parler à sa femme, lui dire, je te trompe, je vais arrêter, mais sa femme a fait de la dépression, c'était fini. Ce couple était brisé. La femme n'a pas pardonné, il est rentré, il avait souligné le plomb tous les jours. Et il m'a dit, alors qu'il était célibataire, il m'a dit, Jean, le jour que tu aimeras une femme, ne sois sentimental qu'avec qu'une. Une. Ne sois jamais sentimental avec une deuxième ou une troisième. Le sentiment ne se donne qu'à une personne. Un homme qui n'était pas croyant, mais qui avait vu l'échec dans sa vie. Qui avait 38 ans. Les amis, que ça vienne d'un prêtre, que ça vienne d'un athée, c'est lui qui a donné le coup de téléphone. C'est Dieu. Dans leur conscience, ils ont parlé pour moi. Et la Bible parle. La Bible parle. Salomon n'a pas écouté la Bible. Salomon n'a pas écouté. Il s'est laissé séduire. Les convoitises. Chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Moabite, Ammonite, Édomite, Sidonienne, Étienne, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Alors, vous pouvez lire tout le chapitre 11, évidemment. Évidemment. Et qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? C'est que Dieu va dire une chose. On ne rigole pas avec Dieu. Dans le même chapitre, au chapitre 11, verset 29. Dans ce temps-là, Jéroboam, c'est un ouvrier. C'est un chef de chantier. Il n'est pas un enfant de Salomon. C'est un ouvrier. Un ouvrier qui avait voulu taper sur la figure à Salomon, qui était violent, mais était très compétent dans son travail. Et Salomon l'avait gardé pour diriger ses ouvriers. Eh bien, il y a un prophète, Agija, qui habitait Silo. Agija va venir. Regardez bien, au verset 29. En ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Agija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Agija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, je te donnerai 10 tribus. Vous avez vu la sanction? Ça rigole pas, hein? C'est pour ça, les amis, quand on a la foi dans le Seigneur, dans l'Éternel, qui a créé les cieux, l'univers, qui est sur son trône de gloire, qui est entouré des anges. Regardez bien, Nebuchadnezzar a avoué à Daniel que le roi d'Israël, le roi des cieux était le plus grand, dirigeait tout, qu'il avait tout reçu de sa main. Quand c'est à l'époque de Esdras et de Néhémie, Cyrus, et puis ensuite Ataxerxès, Assuérus II, vont dire la même chose. Des incroyants reconnaissent la grandeur et disent que dans les cieux, il est entouré de la gloire. Alors que des croyants qui ont la Bible ne considèrent pas Dieu dans son élévation. Ils l'ont mis au même niveau qu'eux. Les amis, toute la prédication que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est d'examiner notre cœur et de reconnaître Dieu à sa place. Quand vous lui parlez, rappelez-vous ce que Jésus a dit. Notre Père qui es aux cieux. Ben, c'est comme Esdras et Néhémie. Toi, le Dieu des cieux, etc. Toutes les prières qu'ils disent, Néhémie, Esdras, Daniel, tous les grands prophètes. Jésus a dit qu'il était entouré des cieux. C'est-à-dire quoi? Le trône de gloire, le temple divin, et tous les anges et les archanges. En plus, déjà tous ceux qui sont décédés et qui sont dans la gloire de Dieu. C'est un grand Dieu que nous avons. Un grand Dieu dans une toute petite église ici. Un grand Dieu dans tous des tout petits corps que nous avons. Un grand Dieu dans toutes les petites familles comme nous en avons tous. Il faut, franchement, nous avons un sacré privilège. Nous avons un sacré cadeau. Recevons notre Dieu dans notre cœur, sincèrement. Sincèrement, avec adoration. Avec adoration. Avec respect. Si nous avons peur de quelque chose, déposons-lui nos peurs. Si nous avons des folies dans l'âme, déposons-les. Recevons sa paix. Il a l'autorité de casser nos orages, nos folies, nos convoitises, nos peurs, nos craintes. Il a l'autorité. Si on le demande sincèrement, il arrête tout en nous. Il arrête les tempêtes, il donne sa paix. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Recevez ma paix, a dit Jésus. Luttons contre les convoitises. luttons contre la nature adamique que nous avons et déposons-la, reconnaissant qu'elle a été portée par Jésus à la croix, que Jésus a brisé cette nature malhonnête que nous avons envers Dieu, cette nature perverse, et acceptons la nature sainte de Jésus en nous, la vie sainte de Jésus. Aimons ce qu'il y a de plus précieux. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor, dans Matthieu, Jésus l'a dit. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Mon trésor, c'est Jésus-Christ. Mon cœur, à Jésus-Christ. Mon intelligence, à Jésus-Christ. Mon corps, à Jésus-Christ. Pas une poubelle pour l'impudicité et la saleté, l'impureté. Seigneur, tu nous aimes. Seigneur, tu nous aimes. Tu veux faire de nous des temples sacrés, des temples saints, de ton Saint-Esprit. Tu es l'absolu, tu es l'infini, Seigneur. Et tu viens dans le relatif, dans quelque chose de tout petit. Nous, moi, chacun de nous. Tu viens, Seigneur, parce que tu es dans un amour infini pour ta créature. Tu as un plan merveilleux pour nous. Nous rendre semblables à Jésus. Parce que nous le verrons, nous lui deviendrons semblables, a dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Celui qui a cette espérance se purifie. Amen. Amen. Qui veut prier ?